Monsieur Ken Frank. Le loup qui devient mouton. Y a-t-il parmi vos connaissances quelqu'un dont vous pensez qu'il ne pourrait jamais être converti? Il est tellement enraciné dans ce monde, tellement méchant, comment pourrait-il jamais avoir sa place dans l'Église? D'un autre côté, connaissez-vous quelqu'un qui est tellement impliqué dans sa religion et son Église, tellement fervent dans sa foi particulière, qu'il vous est impossible d'imaginer qu'il abandonnerait tout cela pour venir à l'Église de Dieu? Dans le sermon d'aujourd'hui, nous allons justement nous pencher sur les leçons qui se dégagent de la conversion d'une telle personne. Son nom était Saul. Ce nom vous fera peut-être penser à ce premier roi de la nation d'Israël, mais ce n'est pas là le Saul dont je veux parler. De toute façon, le nom de ce roi était Saül et non Saul. J'ai donné à mon sermon le titre suivant, « Le loup qui devient mouton ». Préparons le terrain en prenant un peu de recul afin de mettre en perspective les différents éléments qui interviendront durant le déroulement de cette histoire. Pour cela, tournons-nous vers le Nouveau Testament, en particulier vers le chapitre 6 du livre des Actes, qui nous servira de toile de fond. De là, nous effectuerons diverses excursions qui nous permettront de réunir les différents éléments qui constitueront notre histoire. Un de ces éléments impliquera un personnage nommé Étienne. Voyons Actes, chapitre 6, verset 8. Actes, chapitre 6, verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. C'étaient des Juifs hellénistes qui avaient leur propre synagogue à Jérusalem et ils faisaient de l'opposition, s'en prenant particulièrement à Étienne. Verset 10. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Et vous savez, cela irrite les gens quand ils ne peuvent répliquer à vos arguments. C'est pourquoi ils vont décider de le persécuter. Verset 11. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent, « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » L'accusé d'un tel méfait était évidemment une bonne façon d'exciter la colère de la foule. Verset 12. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et, se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent, « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Il s'était emparé de cette expression de Jésus qui avait dit, « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. » Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'il ne parlait pas d'un édifice de la ville. De fait, Jésus parlait du temple de son corps, mais c'est le prétexte qu'utilisèrent ses ennemis pour accuser des hommes comme Étienne de vouloir détruire le temple de Dieu et de vouloir prêcher contre la loi que Dieu leur avait donnée par Moïse. Verset 15. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Acte 7, verset 1. Le souverain sacrificateur dit, « Les choses sont-elles ainsi ?» Puis, durant le reste de ce chapitre 7, Étienne va prononcer ce magnifique discours où il passera en revue l'histoire d'Israël, de Moïse et de Salomon. Rendons-nous maintenant au verset 51 de ce chapitre 7, où Étienne, conscient de l'effet que son discours a produit en eux, ajoute, acte 7, verset 51, « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ?» Jésus ne leur avait-il pas dit la même chose? Depuis des siècles, n'avait-il pas sans cesse persécuté les serviteurs de Dieu? Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges, et qui ne l'avez point gardée. Étienne se fait ici leur juge. Lui dont ils font le procès, il les accuse de manquer de cœur et d'être des meurtriers. Son plaidoyer ne lui obtient cependant rien de positif. Au contraire, les voilà qui sont furieux, enragés et pleins de haine et de ressentiment à son égard. Pourtant, un de ces fiers pharisiens parmi eux ne tardera pas à être amené à la repentance. C'est celui à qui nous devons près d'un tiers de notre Nouveau Testament, et c'est lui qui fera l'objet du reste de notre histoire. Il nous fallait cependant commencer par mentionner ces événements-là avant de débuter notre histoire. Ainsi, comme nous allons le voir, Étienne sera le premier des martyrs chrétiens. Verset 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Souvenez-vous de Jésus qui disait dans les évangiles qu'il y aurait des pleurs et des grincements de dents. De même, ils grincèrent des dents contre Étienne, étant plein de colère et de rage à son égard. Étienne en aurait probablement dit plus, mais ils ne lui en laissèrent pas le temps. Ce qu'il avait dit jusqu'à présent aurait dû les amener à la repentance, mais ce ne fut hélas pas le cas. Verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et c'est cette gloire de Dieu que les Juifs, dans leur jargon hébreu, avaient appelée dans les siècles passés la gloire Shekinah, une manifestation visible de la présence et de la gloire de Dieu. Et Ézéchiel avait prophétisé que cette Shekinah allait s'éloigner du Saint des Saints. En parcourant le livre d'Ézéchiel, on apprend que cette gloire de Dieu s'éloignera de plus en plus du Saint des Saints, pour se diriger vers le mont des Oliviers, d'où elle retournera au ciel. Et pourtant, après toutes ces années, voilà qu'Étienne obtient une brève vision de cette gloire de Dieu, et il lui est même accordé de voir Jésus debout à la droite de Dieu. Dans le Nouveau Testament, après les Évangiles, Jésus se manifeste ainsi à trois occasions. Ici, dans Acte 7, à Étienne, puis à Paul, dans Acte 9, enfin à Jean dans le livre de l'Apocalypse. Et notez que Jésus se tient debout. D'ordinaire, on le mentionne assis, comme dans Acte 2 et dans Hébreux 8. Mais ici, il est debout, comme s'il agissait en tant qu'avocat de la défense. Et Étienne le voit, et cela doit sans nul doute lui donner beaucoup de courage pour tenir bon. Peut-être que Jésus se tient debout pour rappeler à Étienne qu'il est le souverain sacrificateur. Il est tout de même remarquable qu'il soit debout ici. Quant à Étienne, il dit au verset 56, Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Peut-être que la vision qui lui est accordée ici le transporte directement au troisième ciel, et il y voit le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. En dehors des évangiles, c'est le seul endroit où le Nouveau Testament mentionne l'expression Fils de l'homme. Traditionnellement, être à droite, c'était occuper la place d'honneur. Et c'était généralement aussi du côté droit que les rois portaient les signes de leur royauté. Ainsi, c'est là la représentation qui nous est faite de Jésus. Verset 57. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Leur comportement est similaire à celui d'enfants qui se bouchent les oreilles lorsqu'ils ne veulent pas entendre ce qu'on leur dit. Dans leur rage, ils se précipitèrent donc sur lui et, verset 58, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. C'est de ce Saul dont je veux parler aujourd'hui. Ils le traînèrent donc hors de la ville, car c'est là que les Juifs devaient procéder à leurs exécutions, selon un verset de Lévitique 24. De nos jours, on appellerait plutôt cela un lynchage. C'était le châtiment pour avoir commis un blasphème, et c'est de cela qu'ils l'accusèrent. À l'époque, quand il s'agissait de lapider quelqu'un, le premier à l'avoir accusé devait le pousser dans une fosse de 4 mètres de profondeur. S'il ne mourait pas de sa chute, le reste des manifestants lui lançaient alors des pierres pour l'achever. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Ces témoins étaient certainement des faux témoins. Leur présence sur les lieux laisse supposer qu'il y aurait eu un simulacre de procès, lequel aurait ensuite mené à une exécution conduite légalement. Il est probable cependant qu'on ne se soit pas soucié d'obtenir l'approbation officielle de Pilate, même si cela aurait dû être le cas pour une offense capitale conduisant à une exécution. Une telle situation devait en effet toujours avoir l'aval des autorités romaines. Ou bien Pilate n'avait pas voulu intervenir, ou bien ils avaient omis de l'en informer. On est cependant en droit de se demander, Pilate ne serait-il pas encore sous le choc de son face-à-face avec Jésus, et aurait-il refusé d'intervenir, tout en laissant aux Juifs le soin de régler le problème? Ceux qui avaient lapidé Étienne avaient donc déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme. C'est là une scène qui est devenue presque quotidienne ces jours-ci, du moins pour qui écoute les nouvelles à la télévision. Quant à ce jeune homme, une expression utilisée pour quelqu'un âgé entre 20 et 40 ans, c'était nul autre que Saul. Verset 59. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et après ces paroles, il s'endormit. Étienne avait invoqué Christ au ciel. Sa prière était adressée directement à lui. Jean fera la même sorte de prière à la fin du livre de l'Apocalypse où on lit « Amen, viens, Seigneur Jésus ». Notez aussi ces deux expressions « Seigneur Jésus, reçois mon esprit » et « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Cela ne vous semble-t-il pas familier? Cela ne vous rappelle-t-il pas la prière de Jésus dans l'Évangile selon Luc, juste avant qu'il ne meure? Notez cependant qu'Étienne inverse l'ordre des deux requêtes. Étienne, l'homme dont le nom signifie couronne, venait de se mériter la couronne de vie pour la résurrection à venir. Ce qui précède est nécessaire pour comprendre ce qui est dit au chapitre 8. Dans Actes, le chapitre 8, nous avons une persécution qui se prépare contre l'Église, laquelle sera à l'origine d'une nouvelle diaspora, en ce sens qu'elle fera fuir le peuple de Dieu dans toutes les directions. Acte 8, verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution. Cela dit, l'expression « Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne » fait dire à certains que Saul était un membre du Sanhédrin, et qu'en vertu de cela, il s'était vu attribuer les pleins pouvoirs pour superviser le procès d'Étienne. Mais il n'est pas sûr qu'il fût vraiment un membre du Sanhédrin, même si certains en sont convaincus. Toujours est-il qu'il s'impliqua avec zèle et approuva les procédures engagées. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Ceci montre à quel point il était difficile pour un juif du premier siècle de notre ère d'accepter un Messie qui ne correspondait pas à ses attentes. C'est que Jésus ne correspondait pas à l'image de ce Messie que les rabbins avaient formé dans leur esprit au cours des siècles passés. Voilà pourquoi, après s'en être pris à Jésus, ils en viennent maintenant à persécuter aussi ses disciples. Et c'est ainsi que, ce jour-là, une persécution sévère et de grande envergure débute contre l'Église qui est à Jérusalem. Et il est permis de penser qu'elle est même commencé à s'étendre hors des limites de la ville. Ce à quoi nous assistons maintenant force l'Église à entamer la phase 2 de la mission qui lui est confiée, à savoir de propager l'Évangile dans le reste du monde. Jésus avait dit à ses disciples, Acte 8, verset 1, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus avait établi un plan de croissance de l'œuvre et de l'Église en 3 phases. Nous assistons à présent au début de la phase 2. L'Église se voit contrainte de fuir Jérusalem, son quartier général, en raison de cette persécution qui s'abat sur elle. L'Église va se disperser à travers les régions de la Judée et de la Samarie, excepté pour ce qui est des apôtres. Il est possible que cette persécution ait été limitée aux chrétiens hellénistes, comme Étienne, car en ce qui concerne les chrétiens hébreux, leur attitude vis-à-vis du temple différait quelque peu de celle des Juifs d'autres parties du monde. Cette deuxième phase va nous préparer pour ce qui apparaît dans Actes chapitre 8 verset 14. À partir de ce moment-là et jusqu'en l'an 135 de notre ère, l'Église de Jérusalem, qui finira par se regrouper, était principalement composée de Juifs. Ceci est la conséquence des événements entourant Étienne. Saul avait approuvé la mise à mort d'Étienne. Après cela, la persécution semble s'intensifier, car on trouve maintenant acceptable de persécuter ce petit groupe messianique, ces croyants que l'on ne comprend pas, ces gens qui croient en un Messie que les Juifs ne peuvent accepter. Acte 8, verset 2. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Cela témoigne du courage de ces hommes, car, d'ordinaire, ceux qu'on lapidait pour un blasphème n'avaient pas droit à des funérailles en bonne et due forme. On pouvait se contenter de les jeter tout simplement dans la géhenne pour qu'ils y soient brûlés. Mais ces hommes avaient décidé de prendre le risque d'honorer leur Étienne bien-aimé, et c'est pourquoi on les voit qui le pleurent à grand bruit. La coutume de l'époque voulait alors que les participants se frappent la tête et la poitrine pour exprimer leur chagrin, alors qu'ils honoraient la mémoire du défunt. Encore une fois, ceci ne devait pas se faire dans le cas d'une lapidation, mais ici on tenait à honorer Étienne avec des funérailles de distinction. Verset 3. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes, il les faisait jeter en prison. Notez le terme « ravageait », utilisé pour décrire l'action de Saul. Ce terme évoque l'attitude d'un animal sauvage qui s'affaire autour du corps de sa victime. Rappelons encore une fois qu'il est ici question de Saul, le nom hébreu associé à ce personnage que nous connaissons principalement par son nom romain, son nom helléniste, Paul. Il est intéressant de souligner que Paul est issu de la tribu de Benjamin, comme il nous le révélera lui-même. Or, dans le livre de la Genèse, on nous informe que cette tribu est symbolisée par un loup. Intéressant. Ici, au verset 3, il est donc dit à propos de ce loup de la tribu de Benjamin qu'il ravageait l'église. Saul lui-même avouera plus tard dans ses épîtres qu'il s'était alors efforcé de détruire l'Église. Il persécutait à mort ses membres, les rassemblant, les torturant et les forçant même à blasphémer le nom de Christ. Selon ses propres mots, il s'agissait ni plus ni moins d'une extermination systématique de l'Église. Il va sans dire qu'une telle action restera gravée dans une mémoire d'homme jusqu'à la fin de sa vie. C'est un terrible fardeau à porter, et il hantera Paul pendant le reste de sa vie. D'ailleurs, il en parlera dans ses épîtres. Notez qu'il ne se contentait pas de traquer les hommes. Non, il pénétrait dans chaque maison où se trouvaient ses croyants, et il en arrachait hommes et femmes avec violence, et sans leur montrer aucune pitié. Un même sort était réservé aux hommes comme aux femmes. Mais ces dernières ne pliaient pas sous la persécution. Plusieurs occupaient des positions de premier plan dans l'Église. Le fait d'avoir commis de pareilles exactions allait agir sur la conscience de Paul et produire en lui une remarquable transformation. Verset 4. Acte 8, verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Notez le terme « dispersé » dont nous dérivons le mot « diaspora », qui évoque l'action de prêcher et d'enseigner l'évangile du royaume de Dieu et de Jésus-Christ à travers le monde romain. Nous sommes informés de ceci dans les versets 5, 12, 25, 35 et 40 du chapitre 8. On y parle de la prédication qui s'effectue dans ces districts de l'Empire romain. Ceux qui étudient l'histoire de la chrétienté doivent se rendre à l'évidence que le sang de ces martyrs agit comme une semence au profit de l'Église. Il y eut en effet des gens qui périrent durant cette persécution menée par Saul. Rendons-nous à présent au chapitre 9 du livre des Actes. Acte 9, verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. La persécution débute en tant que conséquence de l'exécution d'Étienne. Après cela, on voit Saul qui passe à l'action, respirant la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Le terme grec qui est à l'origine du terme « respirant » n'apparaît qu'à cet endroit dans le Nouveau Testament. Il est un fait que son attitude, à ce moment-là de sa vie, n'est que menace de mort et d'extermination. L'histoire nous révèle que Saul était un personnage important, un intellectuel dont la réputation n'était plus à faire. Certains prétendent même qu'il faisait partie de l'élite intellectuelle du premier siècle de notre ère. Il était certainement un personnage hors de l'ordinaire. Certains sont même allés jusqu'à le comparer à Platon. Il était probablement diplômé d'une des plus prestigieuses universités de son temps, une université qu'il avait fréquentée alors qu'il résidait à Tars, sa ville natale, dans ce qui est maintenant la Turquie moderne. Ainsi, Paul respirait encore ses menaces et ses meurtres à l'endroit des disciples. Il se rend auprès du souverain sacrificateur, peut-être Caïphe, pour lui demander des lettres officielles pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Il faut savoir que Damas était une ville de quelque importance, en fait, la plus importante des villes en dehors de la Palestine. Elle était située dans la province romaine de Syrie, à environ 240 km de Jérusalem, l'équivalent de 4 à 6 jours de marche. L'origine de la ville remonte au temps ancien. On la mentionne déjà dans le livre de la Genèse. Et elle est aujourd'hui la capitale de la Syrie. À l'époque de Paul, il y vivait une large population juive. Quant aux chrétiens qui y vivaient à cette époque-là, ils étaient probablement venus de Jérusalem. Et peut-être même, qui sait, à la suite de cette persécution dont nous venons de parler. Saul les pourchasse maintenant pour les ramener et les traduire en justice. L'Empire accordait aux Juifs le droit d'extrader quiconque avait offensé les communautés juives, même si celles-ci se trouvaient à l'extérieur de la Palestine. Rome leur accordait cette autorité. Par ailleurs, Damas était la plus ancienne des villes de cette région, qui était encore appelée la Décapole. Elle se trouvait sur l'artère principale empruntée par les caravanes qui allaient de Syrie en Mésopotamie. Ce que l'on craignait, c'est qu'en laissant ce mouvement chrétien gagner la région de Damas, il ne se répande ensuite dans toutes les parties du monde romain grâce aux échanges favorisés par ce réseau de caravanes. Voilà pourquoi Saul se fait donner ses lettres pour les synagogues de Damas. C'était dans l'intention de ramener liés à Jérusalem tous les adeptes de ce mouvement controversé. Et à 6 reprises dans le livre des Actes, on se référera à ce mouvement chrétien en l'appelant la voie. Cette voie, en grec, sera le premier nom sous lequel on désignera l'Église de Dieu. Jésus n'avait-il pas dit en effet qu'il était la voie, la vérité et la vie? Pas étonnant donc que ses disciples se soient regroupés sous la même bannière, une façon de vivre qui caractérise la communauté chrétienne. Il est intéressant de noter que la communauté chrétienne de Qumran se réclamait de la même bannière pour désigner sa façon de vivre. Dans l'Ancien Testament, la voie de l'Éternel est un terme qui revient souvent. Ce terme décrit adéquatement l'ensemble de cette voie d'un point de vue moral et spirituel. Ainsi, Saul cherche à saisir tous les adeptes de cette voie, hommes ou femmes, afin de les ramener liés à Jérusalem, où le Sanhédrin aurait l'autorité de les acquitter ou de les condamner à mort. Cela voulait dire leur faire parcourir une distance de 240 km à pied ce qui exigerait de ces prisonniers enchaînés qu'ils marchent durant 6 jours. Si nous nous comparons à ces pauvres gens, des gens qui sont en fait nos ancêtres spirituels, il nous faut bien reconnaître que notre sort, en tant que chrétiens, est bien moins pénible que le leur avait été. À vrai dire, c'en est même embarrassant. Entre parenthèses, cela se passait en l'an 35 de notre ère. Acte 9, verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Notez que la voix l'appelle par son nom à 2 reprises. Il voit donc cette lumière, une manifestation de la gloire de Dieu, de cette gloire Shekinah qui lui apparaît dans le ciel. Lorsque Paul parlera à nouveau de cet événement, plus loin dans le livre des Actes, il précisera que cela s'était produit vers midi, et que cette apparition lui semblait plus brillante que le soleil, et qu'elle répandait sa lumière depuis le ciel. Naturellement, il fut projeté à terre, et il entendit alors cette voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il s'agissait bien sûr de la voix de Jésus-Christ. Comment se fait-il qu'il se fasse accuser de persécuter Jésus-Christ ? Très simple, persécuter l'Église équivaut à persécuter Christ, car l'Église est le corps de Christ. « Pourquoi me persécutes-tu ? » lui demande la voix. À cela, Saul répond en disant « Qui es-tu, Seigneur ?» Selon la tradition rabbinique, une telle voix venant du ciel aurait été considérée comme étant la voix de Dieu lui-même. Cette lumière aveuglante, ainsi que la répétition de son nom, Saul, Saul, devait suggérer à Saul qu'il était en présence de la divinité. Les Écritures mentionnent diverses manifestations de ce type où Dieu appelle ses serviteurs, et à chaque fois il prononcera leur nom à 2 reprises. Moïse, Moïse, Samuel, Samuel, et Saul, Saul. Verset 5, il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Comment faut-il comprendre cette expression « Il te serait dur de régimber contre les aiguillons » Eh bien voilà, ici on établit une analogie avec des bêtes qui refuseraient obstinément de se laisser diriger par leur maître. Ainsi, lorsque des bestiaux doivent être ramenés dans leur enclos en passant les barrières qui y donnent accès, les hommes chargés de les y ramener se serviront de longues perches munies de pointes à l'extrémité, et c'est à l'aide de ces pointes qu'ils vont guider les animaux, voire les forcer à suivre le parcours qui leur est assigné. Ces extrémités pointues doivent faire avancer les bestiaux vers ces passages étroits qui conduisent à leur enclos. Par analogie, Jésus-Christ avertit Saul qu'il serait préférable pour lui d'obtempérer lorsqu'il se fait corriger et de ne pas se comporter comme ces animaux qui se rebiffent lorsque leur maître cherche à les conduire dans la bonne direction. Déjà, Saul doit faire face à un chef d'accusation, et pourtant, on le voit qui tente d'étouffer l'aiguillon de sa conscience en augmentant la persécution de l'Église de Dieu. Il est intéressant de noter comment les gens, au lieu d'écouter et de suivre la voix de leur conscience lorsqu'elle les accuse, s'enliseront encore davantage dans la voie du péché qui les tenait. Saul est pris dans un engrenage, et Jésus s'efforce de le ramener à la raison en parlant à son cœur. Finalement, verset 6, « Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Ceci est un test à n'en pas douter. Il lui faudra d'abord suivre ses instructions. Mais va-t-il le faire ? Verset 7, « Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. » Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Ces hommes qui l'accompagnaient étaient autant de témoins de l'événement. Ils auraient pu témoigner que Saul n'avait pas vécu une crise émotionnelle ou un traumatisme. Il n'avait pas non plus été victime d'une hallucination, n'avait pas subi une crise d'épilepsie, succombé à un coup de soleil ou fait une crise d'hystérie. Toutes des choses qui ont été invoquées par certains pour tenter de rejeter l'idée que son expérience était réellement la cause d'une intervention divine. Permettez-moi de vous citer ces paroles de l'érudit William Neal. Il dit « Rien moins qu'un miracle aurait pu ainsi révolutionner la vie de ce rabbin qui incarnait à merveille l'idée qu'on se fait d'un individu équilibré et sain d'esprit. Par conséquent, ceux qui voyageaient avec lui étaient bouche bée quand ils entendirent une voix mais ne virent personne. » Certains font remarquer qu'il semble y avoir une contradiction ici avec ce qu'on lit au verset 9 du chapitre 22, où il est dit qu'ils n'entendirent pas de voix. Comment allons-nous résoudre ce problème? En réalité, il n'y a pas vraiment de contradiction. C'est plutôt une mauvaise interprétation du texte grec. Il faudrait plutôt y lire qu'ils entendirent, mais ne comprirent pas ce que la voix disait. Poursuivons au verset 8. Acte 9, verset 8. Saul se releva de terre, et, quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. Il s'agissait ici d'un aveuglement temporaire qui allait de pair avec ce qui se déroulait dans son esprit. Oui, il s'était montré incapable de reconnaître la vérité. Il s'était comporté en persécuteur aveugle. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. C'était précisément où il voulait aller. Verset 9. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Le voilà qui jeûne, une pratique qui était commune à l'époque, en particulier quand on avait vécu une expérience de ce type. On nous rapporte que, jadis, les chrétiens recouraient souvent au jeûne avant de se faire baptiser. Souvent, un message provenant du ciel était accompagné d'un signe, comme pour confirmer son authenticité. Dans le cas présent, Saul était devenu aveugle. Cela affermit les pensées de son esprit. Puis au verset 10, « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur !» Le nom de cet homme, Ananias, n'apparaît qu'en 2 endroits, ici et au chapitre 22. Ananias va servir de témoin lors de la conversion de Saul. Plus que cela, il sera l'outil dont Dieu se servira pendant tout ce processus. Ananias était un nom répandu à cette époque. Son équivalent grec dérive de son homologue hébreu Hanania, qui signifie « Dieu est miséricordieux ». Ananias était un chrétien d'origine juive, donc un témoin compétent de la conversion de Saul. Au verset 12 du chapitre 22, on dit à propos de lui qu'il était un homme pieux selon la loi, et que tous les Juifs demeurant à Damas rendaient de lui un bon témoignage. Au verset 10 du chapitre 9, ce même Ananias est appelé un disciple, et on y voit le Seigneur qui lui dit dans une vision « Ananias !» et il répondit « Me voici, Seigneur !» Notez cependant qu'ici, même s'il est dit qu'il eut une vision, il n'en reste pas moins qu'il entendit le message. D'ailleurs, la même chose peut être notée dans d'autres visions de l'Ancien Testament. Verset 11. Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. » Ici, il est question de cette rue appelée la droite. C'est une rue longue de 1,5 km, ornée de colonnades datant de l'époque helléniste, durant laquelle Damas avait été rebâtie. La ville avait alors la forme d'un rectangle et elle était parcourue de rues orientées nord-sud et est-ouest. Les rues orientées dans le sens est-ouest étaient plus longues et celle qu'on appelait la droite était la plus longue de toutes. En fait, elle était la plus longue de la ville et elle existe encore de nos jours, sauf qu'on l'a renommée Darb al-Mustaqim. Elle a toujours été l'artère principale de Damas. Mais il est vrai que, de nos jours, ces colonnades de style corinthien qui s'échelonnaient sur tout son parcours ont disparu. Christ avait donc dit à Ananias d'aller dans cette rue appelée la droite pour y chercher un certain Saul de Tarse, lequel se trouvait dans la maison de Judas, où il priait. Puisqu'on a parlé de Tarse, mentionnons que c'était la ville natale de Paul. Cette ville de Turquie était un important centre commercial et pouvait s'enorgueillir d'avoir une université de renom. C'est à Tars que Saul grandit et alla à l'école, avant de se rendre à Jérusalem pour se faire instruire par Gamaliel. Tars constituait à l'époque une sorte de plaque tournante. Elle se trouvait être la capitale de la province romaine de Cilicie, située au sud-est de cette région que les Romains appellent l'Asie et que nous appelons maintenant l'Asie mineure. Sa population à l'époque romaine devait avoisiner le demi-million. Selon ses propres dires, Saul n'était donc pas originaire d'une ville sans importance. De fait, Tars, située au confluent de l'Est et de l'Ouest, était à l'époque la rivale d'Alexandrie et d'Athènes, tant dans le domaine des arts que dans celui des sciences. Telle était donc la ville dont Saul était originaire. Au verset 11, on nous dit que Saul se trouve dans cette maison de Damas où il prie. Le fait de prier s'accompagne souvent de visions, comme l'atteste Luc, le médecin bien-aimé, dans l'évangile qui porte son nom, de même que dans le livre des Actes. Sur ce, Ananias se fait dire à propos de Saul, verset 12, « Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. » C'est la deuxième des trois visions qu'aura Saul, la première étant au verset 4, et la troisième se trouvant mentionnée dans Actes 22, verset 17, où l'on apprend qu'il fut ravi en extase alors qu'il priait dans le temple. Nous constatons donc que Dieu travaille avec Saul d'une manière très spéciale. Et il voit en vision un homme du nom d'Ananias qui entre et qui lui impose les mains afin qu'il recouvre la vue. Verset 13. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. » Ananias avait entendu parler de Saul et des maux qu'il suscitait aux membres de l'Église à Jérusalem. Mais à présent, Christ lui demande de se rendre auprès de lui. Réfléchissons un moment. Pourquoi Saul s'était-il mis en route pour Damas? N'était-ce pas pour ramener à Jérusalem, lié de chaînes, ses membres qui s'en étaient enfuis? Et cependant, on ne détecte pas de réticence chez Ananias. Il obéit tout de suite, car lui aussi a eu un message. Il a entendu cette voix qui lui dit d'aller voir cet homme. Même s'il ne comprend pas pleinement ce qui se passe, même s'il a quelques inquiétudes, il va obéir. Il ne va pas argumenter et faire valoir que cet homme a déjà causé bien des maux au sein de Jérusalem. Par ailleurs, Ananias le sait et il le dit au verset 14, Actes 9, verset 14, « Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs, en fait des mandats d'arrestation, pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, verset 15, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom, premièrement devant les nations, deuxièmement devant les rois et troisièmement devant les fils d'Israël. » Saul recevait ainsi une triple mission. Et ici, au verset 15, Dieu dit que Saul est un instrument qu'il s'est choisi. Notez que Dieu travaille aussi avec un autre disciple, tant il est vrai que, dans l'Église, Dieu travaille par l'intermédiaire d'êtres humains. En effet, dans toutes les péripéties entourant la conversion de Paul, c'est Ananias qui est l'instrument dont Dieu se sert. Saul, à l'instar des prophètes, fut lui aussi choisi dans un but bien précis. De fait, dans l'Épître aux Galates, il nous dira que Dieu l'avait choisi dès le sein de sa mère, mais à ce stade, il ne le comprenait pas encore. Quand Dieu dit que Saul est un instrument qu'il s'est choisi pour porter son nom devant les nations, il parle évidemment de toutes les nations, mais tout particulièrement celles qui vivent en dehors de Jérusalem et de la Judée. Cependant, il sera aussi amené à comparaître devant des rois. Ainsi, Saul comparaîtra devant le roi Agrippa, ainsi que l'empereur César, et peut-être même devant l'empereur Néron, lorsqu'il reviendra à Rome, peu avant d'y être exécuté. Par ailleurs, n'oublions pas qu'il devait aussi se rendre auprès des enfants d'Israël. C'est pourquoi, lorsque Paul entrait dans une ville, c'est toujours dans une synagogue juive qu'il se rendait en premier. Et ce n'est qu'ensuite qu'il se manifestait aux gentils de la ville. Poursuivons au verset 16. et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » C'est de Paul que Christ parle ici. Notez que « souffrir » dans le grec peut même signifier « mourir ». De fait, il semble que Paul allait effectivement mourir peu après que Luc eut fini d'écrire le livre des Actes. De tous les chrétiens, Paul est peut-être celui qui eut à souffrir le plus pendant tout le temps qu'il servit celui qu'il avait initialement persécuté. Le fait d'avoir eu tant à souffrir pour Christ a sûrement dû lui mériter ses faveurs, ainsi que l'assurance d'être amplement récompensé à son retour. Peu avant sa mort dans la foi, dans 2 Timothée 4, versets 7 et 8, Paul écrira « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. » Puis, si nous revenons à Actes chapitre 9, au verset 17, Actes 9, verset 17, « Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Ananias impose les mains à Saul pour qu'on le reconnaisse, lui, ce persécuteur, ce loup féroce de la tribu de Benjamin, comme faisant maintenant partie du peuple de Dieu, de ce peuple qu'il avait jadis persécuté. On voit ici Ananias agir comme adjoint de Christ, en tant que commissaire dûment nommé. Ananias lui impose donc les mains en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu, ce n'est donc pas seulement une vision. Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Saul se basera sur cet incident où Christ lui apparut pour se faire reconnaître en tant qu'apôtre. En effet, environ 20 ans plus tard, dans 1 Corinthiens 9, verset 1, Paul s'exclamera « Ne suis-je pas apôtre? Ne suis-je pas libre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? » Et puis plus loin, dans 1 Corinthiens 15, verset 8, nous lisons 1 Corinthiens 15, verset 8, « Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. » Puis au verset suivant, il dira, verset 9, « Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Entre parenthèses, ici au verset 9, on mentionne l'Église de Dieu. C'est l'une des 12 fois que ce nom apparaît dans le Nouveau Testament. Notez que ce n'est pas un autre apôtre qui a donné l'apostolat à Saul. C'est Christ lui-même qui l'a nommé à ce poste. Dans le cas de Saul, ou Paul, sa conversion et sa nomination en tant qu'apôtre ne se déroulèrent pas comme chez les autres apôtres, comme il nous le dit lui-même dans Galates, le chapitre 1. Galates 1, verset 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qu'il a ressuscité des morts. C'est donc directement de Christ et de Dieu le Père qu'il détient son apostolat. Puis, verset 11, « Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Ce fut donc par une révélation personnelle de Christ. Il l'avait vu en personne. C'est ce qu'Ananias disait dans Actes 9, verset 17. Revoyons-le. Actes 9, verset 17. « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Paul allait avoir besoin de ce Saint-Esprit dans son ministère. Et cela va profondément influencer sa façon de prêcher par la suite. D'ailleurs, il ne tardera pas à en faire usage pour prêcher la vérité. Verset 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Notez qu'il ne se mit pas à parler en langue. Il avait donc reçu le Saint-Esprit. Sa conversion allait pouvoir débuter sur un bon pied. Laissez-moi vous faire part de cette remarque faite par Lord Lyttelton, un homme d'État du XVIIIe siècle. Parlant de Saul, il écrivait « La conversion et l'apostolat de saint Paul est une preuve plus que suffisante du fait que le christianisme correspond à une révélation divine. Le fait que Christ ait pu convertir un individu de la trempe de Saul, un ennemi avoué de l'Église, est déjà en soi un sceau d'approbation et d'authentification de ce qu'il est convenu d'appeler la voie chrétienne. » Poursuivons verset 19. Il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Damas était une ville intéressante. Elle était la plaque tournante d'un vaste réseau commercial par où transitaient de longues files de caravanes vers le nord de la Syrie, de la Mésopotamie, de l'Anatolie, de la Perse et de l'Arabie. Il y a tout lieu de penser que si le christianisme y prenait de l'essor, la voie du Christ se propagerait rapidement à tous les endroits où iraient ces caravanes. La nouvelle se répandrait. Les portes de la ville subsistent encore de nos jours, de même qu'une section de la muraille qui l'entourait. Damas est considérée comme l'une des plus anciennes cités du monde à avoir été habitée en permanence. Depuis qu'il y habite, Saul va, en certains jours, passer du temps avec les disciples de l'endroit. Verset 20. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. C'est tout de suite après son baptême. Voyez-vous, c'était là ce que Christ lui avait demandé de faire. Et c'est pourquoi il ne perd pas de temps pour agir. Il va donc prêcher dans les synagogues que Christ est le Fils de Dieu. Oui, le Fils de Dieu. Sauf que ici, il va prêcher à propos de celui qui lui était récemment apparu en tant que le Messie, ce membre de la famille divine qui était venu en la chair et qui, depuis, était remonté au troisième ciel. Puis au verset 21, nous lisons, acte 9, verset 21, « Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom ? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Ils étaient perplexes et ne comprenaient plus rien. Après tout, n'était-il pas venu muni de mandats d'arrêt pour eux? Et voilà qu'il leur prêche en ce même nom. Verset 22. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Le Christ, c'est-à-dire loin, le Messie. Par sa façon de démontrer que Jésus était le Christ, Paul avait semé la confusion la plus totale parmi la communauté juive de Damas. Qu'arriva-t-il alors? À ce stade, il semble y avoir une incohérence entre le récit des événements subséquents faits par Luc et celui fait par Saul, qui s'efforce de souligner que c'est Christ lui-même qui lui a enseigné ce qu'il prêche maintenant. Ainsi, dans Acte 9, Luc écrit qu'après que Saul eut enseigné aux Juifs de Damas, versets 21 et 22, au bout d'un certain temps, la New King James dit qu'après que beaucoup de jours se furent écoulés, ceux-ci, ces Juifs, se concertèrent pour le tuer, verset 23. Puis au verset 24, 25 et 26, Luc nous donne l'impression que Saul, conscient du danger, s'enfuit alors à Jérusalem. Cependant, si on se fie à ce que Paul lui-même écrit dans Galates 1, verset 16, on apprend qu'aussitôt après que Dieu lui eut révélé son Fils, il ne consulta ni la chair ni le sang, et qu'il ne monta point à Jérusalem vers ceux qui avaient été apôtres avant lui, mais qu'il partit pour l'Arabie. Puis il retourna à Damas, verset 17. Enfin, ce n'est que dans Galates 1, verset 18, que Paul dit être allé à Jérusalem. Pour concilier les deux versions, il nous faut donc envisager que le scénario réel fut le suivant. Conversion de Paul, suivi d'un court séjour à Damas, puis séjour en Arabie, où Christ lui enseigne personnellement, puis retour à Damas, où il enseigne davantage. En fait, jusqu'à ce complot des Juifs qui cherchent maintenant à le tuer. L'ironie est que cette persécution sera dirigée contre quelqu'un qui fut jadis leur allié. Enfin, 3 ans après sa conversion, il s'échappe pour fuir vers Jérusalem. Voilà que celui qui traquait se fait lui-même traquer. Quel étrange retour des choses. Paul nous donne un petit détail additionnel dans 2 Corinthiens 11, verset 32, où il nous informe que le roi Arétas faisait partie du complot des Juifs, car il avait demandé à son gouverneur de garder la ville, si bien que Paul dut s'échapper par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille. C'est ce qu'on lit au verset 33. À propos, ce n'est pas la première fois qu'on entend parler d'un tel événement. Pensez à ces deux espions israélites qui furent évacués ainsi de Jéricho. Pensez aussi à David, que sa femme Michal fit évacuer dans une corbeille lorsque son père Saül envoya des gens pour se saisir de lui. Avant de rejoindre Paul à Jérusalem, voyons encore ces quelques aveux qui nous viennent de lui. Veuillez pour cela vous reporter à nouveau à l'épître aux Galates. Là, au chapitre 1 et au verset 13, Paul dit aux frères de la Galatie, Galates 1, verset 13, Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. On le voit ici qui s'affaire à détruire ce mouvement, la voie du Seigneur. Verset 14. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Il nous parle de son éducation, de son zèle excessif en tant que pharisien. Il était l'exemple parfait de quelqu'un qui obéissait en tout point à la lettre de la loi. Il était très zélé. Verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, c'est maintenant, après toutes ces années, alors qu'il écrit l'épître aux Galates, qu'il se rend compte que Dieu avait eu l'intention de le mettre à part dès le sein de sa mère, comme il l'avait déjà fait dans le cas de Jérémie et de tous ces autres individus qu'il s'était réservés dès le début de leur existence. Bon, après cette parenthèse, revenons à notre Paul qui va s'enfuir de Damas, aidé par les frères, pour se rendre à Jérusalem afin de faire connaissance avec Pierre. Galates 1, verset 18. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans Actes 9, verset 26, on en apprend davantage à propos de cette aventure. Acte 9, verset 26. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Entre nous, on ne peut les blâmer pour cela. N'avait-il pas en effet pourchassé et fait arrêter leurs frères, sœurs, mères, pères, oncles, tantes et grands-parents, et j'en passe? Voilà donc Paul qui arrive à Jérusalem et qui essaie de se joindre à l'Église. Mais les gens vont l'éviter, et pour cause. Après tout, il n'avait pas connaissance du changement profond qui s'était produit en lui. 3 années s'étaient maintenant écoulées depuis sa conversion, et vous pouvez vous imaginer le nombre de rumeurs qui ont dû circuler à son sujet dans Jérusalem. Il semble que Paul va se faire exclure du groupe. Heureusement qu'il va arriver quelqu'un pour prendre sa défense. Quelqu'un qui a pour nom Barnabas, ce qui signifie celui qui encourage. Verset 27. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres, et il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. N'est-ce pas une merveilleuse expérience, lorsqu'après avoir été repoussé dans nos derniers retranchements, quelqu'un vient à notre défense et se place à nos côtés? Cela nous décharge en quelque sorte de ce lourd fardeau que toutes ces questions et tous ces doutes avaient mis sur nos épaules. C'est ce que Barnabas fit pour Paul. Il est intéressant de souligner que, quelques chapitres plus loin, On les voit qui s'associent, qui sont établis dans le ministère de l'Église et qui partent accomplir ensemble leur premier voyage missionnaire. Ils sont devenus de bons amis. Il est vrai qu'un incident les séparera pour quelques années, mais ils reviendront ensemble. Pour lors, Barnabas prend la défense de Paul, et c'est pourquoi, verset 28, il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Paul menait des débats. Il se conduisait en apologiste à l'égard de ces juifs hellénistes. Il est intéressant de noter que ces chrétiens hellénistes, comme Étienne et maintenant Paul, étaient parmi les plus actifs au sein de l'œuvre à Jérusalem. De même que les juifs hellénistes étaient les plus farouches adversaires du christianisme. Ces juifs de la dispersion avaient en commun la culture grecque, mais ils entament des parcours très différents. Il semble ici que Paul prenne la relève d'Étienne. Croyez-vous qu'Étienne ait laissé sa marque sur Paul? Je crois que oui. En effet, n'est-ce pas ce qu'Étienne faisait avant sa mort? Et maintenant, Paul prend le bâton pour assurer la relève. Acte 9, verset 30. Les frères l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. C'est que Paul doit faire face à une nouvelle menace contre sa personne. En conséquence, les voilà qui le font descendre à Césarée, une belle ville portuaire située au sud du mont Carmel. C'est là que Pilate avait établi son quartier général. De là, ils le renverront à la maison, au moins pour un temps, jusqu'à ce que se calme la controverse qu'il avait suscitée. Et puis, Paul n'avait pas vu sa famille depuis un certain temps. Le voilà donc qui prend le chemin du retour, un voyage qui le ramènera à sa ville natale de Tarse. C'est là qu'il restera, du moins jusqu'à ce que Barnabas se rende auprès de lui disant: Paul, j'ai besoin de toi. Il nous faut reprendre le travail qu'on nous avait assigné. Verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ce verset résume l'essentiel de cette période de l'histoire chrétienne qui s'étend sur presque une décennie et dont le livre des Actes est avare de commentaires. Cela peut s'expliquer par le fait que, durant la même période, le monde romain assiste au remplacement de l'empereur Tibère par l'empereur Caligula, lequel voulait ériger une statue à son effigie dans le temple. Il en résulta que les Juifs se mobilisèrent contre lui et que, du même coup, ils cessèrent pour un temps de persécuter l'Église. L'Église put ainsi croître en paix, et c'est effectivement ce qu'elle fit en Judée, en Galilée et en Samarie. Elle s'affermit et marcha dans la crainte du Seigneur. Le Saint-Esprit lui apporta consolation et encouragement, et le nombre de croyants se mit à augmenter. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'ils ont maintenant parmi eux ce loup de la tribu de Benjamin qui est devenu mouton. Grâce à lui, la communauté s'accroît et prospère, du moins jusqu'à ce que vienne une nouvelle vague de persécution. Voilà l'histoire de la conversion de Saul. C'est là le nom hébreu qu'on lui a donné à la naissance. Même si, durant l'exercice de son ministère, après sa conversion, il emploiera de plus en plus le nom de Paul. Je voudrais à présent vous indiquer trois leçons que l'on peut dériver de la vie de Paul. Cela nous fera réfléchir chaque fois que nous serions enclins à penser que telle ou telle personne ne pourrait tout simplement pas avoir sa place dans l'Église de Dieu. Leçon numéro 1. Elle nous enseigne qu'il ne faut jamais exclure des gens d'une telle possibilité. Dans nos petites cervelles, il nous est impossible d'imaginer le futur. Nous ne savons rien du plan de Dieu et nous ne devons pas présumer que certaines personnes ne pourraient jamais vivre une transformation comme celle que Saul vécut. Pourquoi? Parce que si Dieu veut convertir une personne, il va opérer en elle un miracle, comme dans le cas de Saul. Cette première leçon doit aussi nous enseigner que Christ est la tête de son Église. S'il veut quelqu'un, il l'aura. Ainsi, n'excluons pas une personne. Ne la considérons pas comme indigne de Christ. Laissez pareille considération entre les mains de Christ. Il sait ce qu'il fait. Leçon numéro 2. Ici, Jésus nous enseigne d'aimer nos ennemis et de prier pour eux. N'est-ce pas ce qu'a fait Étienne? Effectivement, avant de mourir, il a dit « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Cette prière fut-elle honorée? Posons-nous la question. Qui se porte maintenant à la défense de l'Évangile? N'est-ce pas celui qui avait présidé à l'exécution d'Étienne? Voyez comment Jésus nous dit de prier dans Matthieu 5, verset 43. Matthieu 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». La première partie, « Tu aimeras ton prochain », est issue de l'Ancien Testament. La deuxième partie, « Tu haïras ton ennemi », est probablement ce qu'enseignaient les rabbins, car il est dit « Vous avez appris ». Cependant, voyez ce que Jésus ajoute au verset suivant, le verset 44. « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Pour cela, il nous faut l'aide du Saint-Esprit en nous. L'esprit charnel n'en serait pas capable. Cela requiert un miracle. Verset 45. « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? » Verset 48. « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » La leçon est donc d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous maltraitent. Étienne avait parfaitement suivi cette recommandation avant de mourir. Enfin, voyons la leçon numéro 3. Toute conversion est un miracle. Même ceux d'entre nous, qui n'étions pas des persécuteurs de la trempe de Saul, nous aussi nous résistions à Christ jusqu'à notre conversion. Nous aussi, nous avons bénéficié d'un miracle pour en être arrivés là. Chaque conversion relève d'un miracle. Dans mon ministère, j'ai pu m'en rendre compte à maintes et maintes reprises. Laissez-moi vous relater une histoire qui remonte à l'époque où j'ai commencé mon ministère. J'étais alors un pasteur résidant à Estevan, au Saskatchewan. J'étais responsable d'une petite congrégation de 25 personnes qui était éparpillée sur un vaste territoire de 800 km couvrant la Saskatchewan, le Dakota du Nord et le Montana. Je me souviens que nous avions un membre en particulier, un homme, qui venait fidèlement aux assemblées chaque semaine, ce qui l'obligeait chaque fois à passer la frontière. Il m'avait déjà mis en garde à propos de sa femme. Un jour, alors que nous avions exprimé le désir de lui rendre visite, il me donna davantage de précisions, me racontant ce qui était arrivé au ministre précédent, qui, lui aussi, avait voulu lui rendre visite. Sa femme était alors sortie précipitamment de la maison en s'écriant « Fichez-moi le camp, je ne veux pas voir ici des truands comme vous !» Et elle se mit à le chasser sans ménagement. Mais cet homme continua à venir à nos assemblées pendant 7 ans, et cela malgré l'opposition constante qu'il subissait à la maison. Puis, un jour, alors que j'étais devenu son pasteur, il me confia « Je ne comprends pas ce qui se passe, mais ma femme s'est soudainement mise à étudier. Elle lit maintenant les publications de l'Église et elle me pose des questions. » Croyez-le ou non, peu après, j'eus l'honneur de la baptiser. Elle, qui avait été l'ennemie de l'Église, avait été appelée par Dieu et elle aussi vécut une transformation radicale. Un tel miracle peut donc se produire de nos jours, comme il s'est produit au premier siècle de notre ère chez Paul. Tirons donc avantage de ces leçons. Ne considérons jamais qu'une personne n'a aucune chance de parvenir à la conversion. Prions pour nos ennemis. Chaque conversion est un miracle. Si nous le faisons, il nous sera donné de voir Dieu à l'œuvre, lorsqu'il transformera un individu pour faire de lui un mouton du loup qu'il était auparavant. Il se pourrait même que cet individu fasse partie de vos connaissances.